Euradio, Euro-Minute, Johan Walker.
Bonjour Johan.
Bonjour Cécile.
La guerre en Ukraine, plus qu'un simple conflit de haute intensité, comporte une dimension communicationnelle importante en termes de désinformation et d'acquisition d'influence internationale. Johan, comment ce conflit informationnel de récit se développe-t-il actuellement ?
Oui, Cécile, vous avez raison de souligner cette notion de conflit de récit dans la lutte actuelle. Ce qui est le plus remarquable, c'est la façon dont ce conflit international s'est enraciné dans une discussion sur les valeurs sociétales. Plus intéressant encore, sur le thème de l'acceptation des personnes LGBTI. En effet, le lundi 6 mars, à l'hôtel de ville de Paris, s'est tenue une conférence internationale inaugurant l'Association pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Jean-Marc Berton, ambassadeur français pour les droits des personnes LGBT+, était présent à cet événement. Son rôle, bien que lié à une mission de promotion de dépénalisation à l'échelle internationale, soulève également la question du discours LGBTI dans la diplomatie, et plus particulièrement, du soft power de la Russie à l'échelle internationale. Le Kremlin brandit un discours anti-LGBTI pour galvaniser le sentiment anti-occidental dans le conflit actuel.
Mais comment la Russie use-t-elle du discours anti-LGBTI dans son action diplomatique ?
Alors, ces dernières années, le gouvernement russe dépeint l'UE comme un foyer d'activisme LGBTI pour alimenter un sentiment nationaliste au sein de sa propre population. Un exemple de cette tactique est la façon dont la Russie a utilisé la question des droits des LGBTI pour critiquer les efforts d'intégration euro-atlantique de l'Ukraine à l'époque de l'Euromaïdan. Pour la propagande russe, l'expansion de l'Union européenne et de l'OTAN font partie d'un programme plus large visant à imposer les valeurs occidentales aux sociétés chrétiennes, traditionnelles et conservatrices d'Europe de l'Est, et en particulier imposer le mariage gay comme obligatoire. En présentant la position pro-européenne de l'Ukraine de cette manière, la Russie cherche à se présenter comme un défenseur des valeurs traditionnelles et un rempart contre la menace perçue de la décadence occidentale.
Ce discours est-il exporté au niveau international, Johan ?
Absolument, Cécile. Alors, nous avons récemment parlé de la présence du groupe paramilitaire pro-russe Wagner en Afrique, qui illustre clairement la volonté du Kremlin de gagner de l'influence en dehors de l'Europe. Cette volonté s'est déjà manifestée lors du discours de Poutine du 30 septembre dernier. Dans son discours, on voit qu'il ancre ce conflit entre la Russie et l'Occident dans une optique traditionnaliste en demandant à son auditoire « Est-ce que nous voulons que l'on enseigne dans nos écoles primaires des perversions qui conduisent à la dégradation et à l'extinction ?» Mais le plus intéressant dans ce discours, c'est le désir de Poutine de s'adresser aux pays du Sud en proclamant que l'Occident est prêt à tout pour conserver ce système néocolonial. L'Afrique, qui souffre actuellement d'une crise d'insécurité alimentaire consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est désormais censée s'aligner sur Poutine, figure de proue autoproclamée de la libération postcoloniale contre un néo-impérialisme occidental centré sur les LGBTI.
Quelles sont les ramifications de ce discours pour l'Europe ?
Eh bien, étant donné la dimension mondiale du conflit, le besoin d'un soutien international est primordial. Le succès de ces stratégies de désinformation, notamment en Afrique, risque de décourager une condamnation aux Nations Unies de la Russie pour sa prise de territoire, décrédibiliser les sanctions européennes et, ce faisant, réduire l'importance du droit international public. En effet, la technologie permettant aujourd'hui une diffusion à une échelle imprévue à travers le monde, ces stratégies de désinformation permettent au Kremlin d'interférer directement avec l'opinion publique et assurer l'élection de gouvernements qui collaboreront avec eux sur le plan diplomatique, faisant ainsi avancer leurs objectifs stratégiques.
Les organes diplomatiques de l'Union européenne réagissent-ils à cette stratégie de désinformation ?
C'est vrai que c'est devenu capital pour les services diplomatiques européens. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, dans un discours du 7 février 2023, évoque la nécessité de renforcer la détermination de l'Europe face aux tactiques de désinformation de la Russie. Cependant, selon lui, la capacité de l'Europe à agir efficacement contre ces tactiques reste insuffisante. Manque de personnel, absence de stratégie globale en la matière, incapacité à traiter tous les canaux de communication dans les langues appropriées... À cela s'ajoute la difficulté narrative de savoir comment conserver le soutien dans ces régions sans en effet paraître s'engager dans une forme d'impérialisme LGBTI, les services russes ayant déjà semé la graine de cette idée à l'échelle internationale. C'est dans ce contexte que la nomination d'un ambassadeur français pour les droits des personnes LGBTI est d'autant plus intéressante. Bien qu'elle soit significative en termes de défense des droits fondamentaux, il reste à voir si le service diplomatique français, et plus largement les services diplomatiques européens, ont trouvé une approche stratégique à cette question de la désinformation centrée sur les personnes LGBTI qui aborde sa dimension géopolitique indéniable.
Merci Johan, à la semaine prochaine.
Merci à vous Cécile. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à la page LinkedIn Europe Info Hebdo pour retrouver ces analyses et bien d'autres sorties quotidiennement. À la semaine prochaine.